Le roman des poètes, l'émission vagabonde de la BIP. Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Si la poesía no te ayuda a vivir, hace otra cosa.
If poetry doesn't help you to live, then do something else.
Se la poesía no te ayuda a vivir, allora fate qualcos'altro.
Shiri e Shamzayar Njom Yusa, Bashka Bishay.
L'émission quinzomadaire de la BIP, Brigade d'intervention poétique, Michel Armat et compagnie. Une émission pour raconter la vie des grands poètes, connus ou pas connus. Avec au gré des émissions, les voix de Charo Beltran, Thérèse Bonetta, Cécile Combredet, Florence Mourieras et messieurs Christian Boisson, Jean-Claude César, Yves Flanck, Julien Gill, Marc Pastor, Patrick Vendrin et Michel Arbatz.
Si la poésie vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Hallazgos de la vida.
Découverte de la vie.
Señores, hoy es la primera vez que me doy cuenta de la presencia de la vida. Señores, ruego a ustedes dejarme libre un momento para saborear esta emoción formidable, espontánea y reciente de la vida, que hoy, por la primera vez, me extasía y me hace dichoso hasta las lágrimas.
Messieurs, aujourd'hui, pour la première fois, je me rends compte de la présence de la vie. Messieurs, je vous en prie, laissez-moi seul un instant pour savourer cette émotion formidable, spontanée et toute fraîche de la vie, qui aujourd'hui, pour la première fois, me transporte et me fait pleurer de joie.
Mi gozo viene de lo inédito de mi emoción. Mi exultación viene de que antes no sentía la presencia de la vida. No la he sentido nunca. Miente quien diga que la he sentido. Miente y su mentira me hiere a tal punto que me haría desgraciado.
Ce bonheur, je le dois à mon émotion toute nouvelle. Mon exaltation vient de ce qu'auparavant je n'avais jamais ressenti la présence de la vie. Je ne l'avais jamais ressenti. Il ment, celui qui dirait que je l'avais ressenti. Il ment et son mensonge me blesserait au point de me rendre malheureux.
Mi gozo viene de mi fe en este hallazgo personal de la vida y nadie puede ir contra esta fe. Al que fuera se le caería la lengua, se le caerían los huesos y correría el peligro de recoger otros ajenos para mantenerse de pie ante mis ojos.
Ce bonheur, je le dois à ma foi en cette découverte toute personnelle de la vie, et nul ne peut aller à l'encontre de cette foi. Celui qui l'oserait verrait sa langue tomber, verrait ses os tomber, et courrait le risque d'avoir à en ramasser d'autres et d'autres encore pour se maintenir debout devant moi.
Nunca sino ahora ha habido vida. Nunca sino ahora han pasado gentes. Nunca, sino ahora, ha habido casas y avenidas, aire y horizonte. Si viene ahora mi amigo Peyret, le diría que yo no lo conozco y que debemos empezar de nuevo. ¿Cuándo, en efecto, le he conocido a mi amigo Peyret? Hoy sería la primera vez que nos conocemos. Le diría que se vaya y regrese y entre a verme como si no me conociera, es decir, por la primera vez.
Jamais, sinon en cet instant, il n'y eut de vie. Jamais, sinon en cet instant, il n'y eut de gens. Jamais, en cet instant, il n'y eut de maisons et d'avenues, d'espaces et d'horizons. Si maintenant se présentait mon ami Peyriette, je lui dirais que je ne le connais pas et que nous devons tout reprendre à zéro. Aujourd'hui, ce serait le premier jour de notre rencontre. Je lui dirais de s'en aller et de revenir et d'entrer pour me voir comme s'il ne me connaissait pas, c'est-à-dire pour la première fois.
Ahora,
aujourd'hui,
je ne connais
rien
nadie, ni nada.
Personne.
Me advierto en un país
je
extraño
suis comme dans
en
un pays étranger
relieve de nacimiento,
tout acquiert un relief de
naissance,
une lumière d'immarcessible épiphanie.
Cuánto poco tiempo he vivido.
Si peu
mi nacimiento es tan reciente que no hay unidad de medida para contar mi edad.
Si
acabo
pour
de nacer, si aún no he vivido
je
todavía, señores, soy
je
tan pequeñito que el día apenas
si
cabe en mí.
Que le jour tient à peine en moi. César Vallejo. Qui est César Vallejo et qu'est-ce qui nous a donné envie d'en parler? D'abord, c'est cette méconnaissance qu'il y a de lui en Europe, en tout cas, parce que les latino-américains le considèrent comme un des trois ou quatre plus grands poètes du XXe siècle. Et puis, c'est aussi ce parcours incroyable, cette vie très brève. Un de ses amis, Pablo Carvalan, disait ceci: « Quand je m'approche de la poésie de César Vallejo, je sais surtout que je m'approche d'un homme, d'une mine ouverte, avide de lumière. Il y brûle un feu central, on y souffre sans attribut. C'est la mort du mendiant, la richesse chaude du pauvre, la faim et la soif originelle, le blasphème et la prière, la fraternité. » Voilà quelques mots pour résumer un peu cet homme immense. Il est né donc au Pérou. Il est né dans un petit village à plus de 3000 mètres de hauteur qui s'appelle Santiago de Chuco. Il est né donc en 1892, je crois, enfin vers à la fin du siècle, et il meurt à Paris en 1938. Voilà, donc c'est une vie très brève. Qui est César Vallejo? César Abraham Mendoza Vallejo est le petit-fils de deux prêtres, en fait, et... certains disent de lui que c'est une sorte de catholique impossible, puisque il est dans la descendance de deux prêtres qui ont renoncé à leurs vœux, l'un qui est d'origine indienne et l'autre qui est d'origine galicienne, je crois, venu au Pérou, pardon. Il est élevé dans une famille très nombreuse, dans ce petit village des Andes. Il est, le dixième d'une fratrie de 11 enfants.
Je crois qu'il est le 11e.
Il est le 11e, après son frère Miguel, qui comptera beaucoup pour lui. Et dans cette famille, il y a, je ne sais pas le dire en espagnol, mais il y a les quatre grands, les quatre moyens et les quatre petits. Et lui fait partie des quatre petits. Et ça, la famille va être quelque chose de très important pendant toutes ses années d'enfance dans ce village où il côtoie les Indiens, évidemment, puisqu'il est lui-même en partie métisse. Et puis, c'est une famille relativement, une éducation un peu austère, mais dans laquelle, beaucoup marquée par l'étude des textes bibliques. Mais d'ailleurs, ses parents le destinent à être prêtre, hein, ce qu'il ne sera pas, mais il étudie beaucoup les textes bibliques. Et d'ailleurs, il y en a une trace dans toute son œuvre. Et c'est très, très présent. La parole du Christ est très présente.
Surtout dans ses premiers poèmes.
Alors, il faut dire très rapidement que quand même, ce qu'il y a d'extraordinaire dans Vallejo, c'est que cet homme va s'engager de plus en plus, va aller vers l'Europe, va s'engager dans le marxisme, va être aux côtés des républicains espagnols. Enfin, il va s'engager dans la lutte, enfin, disons, dans la grande utopie du XXe siècle. Mais ce qui est extraordinaire chez cet homme et qui est unique, je crois, dans ce XXe siècle, c'est que jamais il ne changera son langage. Jamais le langage militant ne viendra recouvrir son langage de poète un peu métaphysique, on va dire. Voilà.
Et alors, certains critiques ont même dit que Vallejo était le plus grand poète universel après Dante.
En tout cas, les latinos le placent très très haut. Pour l'enfance, voilà, c'est l'essentiel est dit, je pense. Je laisse la parole donc à Jean-Claude qui nous dit avec Charo ces tercets indigènes.
L'Indien triste, chenu à la volée, exulte. La foule se dirige vers l'autel rutilant. L'œil du crépuscule ne veut plus voir le hameau brûler vif.
Echa una cana al aire el indio triste. Hacia el altar fulgente va el gentío. El ojo del crepúsculo desiste de ver quemado vivo el caserío. La pastora de lana y yanque viste con pliegues de candor en su atavío. Y en su humildad de lana heroica y triste, copo es su blanco corazón bravío.
La bergère porte laine et sandales, dans sa toilette des plis de candeur. Alors en son humilité de laine héroïque et triste, son cœur blanc et sauvage est un flocon de neige.
Entre músicas, de la musique, fuegos de bengala,
et les feux de Bengale,
solfía un accordéon. Algún tendero da su reclamo al viento. Nadie iguala. Las chispas, al flotar lindas, graciosas, son trigos de oro audaz que el chacarero siembra en los cielos y en las nebulosas. Madrugada. La chicha al fin revienta en sollozos, lujuria, pugilatos. Entre los olores de urea y de pimienta, tras un ebrio andar mil garabatos.
Aube, l'alcool de la chicha éclate alors en sanglots, en orgie et en coups de poing. Au milieu des relents de pisse et de poivre, un pochard en titubant griffonne comme un chat.
Mañana que me vaya, se lamenta un Romeo rural cantando a ratos. Caldo madrugador hay ya de venta y brinca un ruido aperital de platos.
C'est demain que je me tire, fredonne en se lamentant un don juan local. Le bouillon matinal est déjà en vente et retentit l'aratoire rumeur des assiettes. Trois femmes marchent, un voyou siffle. Au loin, le fleuve ivre coule. Il chante, il pleure des préhistoires d'eau et des temps anciens.
Van tres mujeres, silba un golfo. Lejos, el río anda borracho y canta y llora prehistorias de agua, tiempos viejos. Y al sonar una caja de tayanga, como iniciando un huayno azul, remanga sus pantorrillas de azafrán la aurora.
Et quand retentissent les roulements de la caja de tayanga, comme pour ouvrir un huaymo d'azur, l'aurore trousse ses jupons de safran.
Thank you.
Juntas.
Attelage.
Completamente, además, vida. Completamente, además, muerte.
Complètement, en outre vie. Complètement, en outre mort.
Completamente, además, todo. Completamente, además, nada.
Complètement, en outre tout. Complètement, en outre rien.
Completamente,
complètement,
además,
en outre
mundo.
Monde.
Completamente,
complètement,
además,
en outre
polvo.
Poussière.
Completamente,
en outre
Dios.
Dieu.
Completamente,
en outre personne.
Nadie.
Complètement, en outre
además,
jamais.
Nunca.
Complètement,
en además,
outre toujours.
Siempre.
Complètement, en outre or.
Complètement, además, oro.
Complètement, en outre fumée.
Complètement, además, humo.
Complètement, en outre larmes. Complètement, en outre rire.
Complètement, además, lágrimas. Complètement, además, risas.
Complètement.
C'est à César Vallejo que nous rendons hommage ce soir. On a parlé de son enfance dans l'Andine, puisqu'il est né au Pérou, très très haut dans la montagne. Il va très vite aller étudier. Enfin, il est d'abord à un collège assez proche de son village, puis il va aller en faculté. Il va partir à Trujillo, qui est la grande ville la plus proche de chez lui. Mais quand on dit la plus proche, c'est quand même à 4 jours de cheval qu'il faut pour aller de Santiago de Chuco jusqu'à Trujillo. Et là, il va commencer des études de lettres. Simplement, ces études, elles vont durer très longtemps parce que c'est une famille très pauvre et que constamment, il va faire des allers-retours entre des morceaux d'études et puis des boulots alimentaires pour essayer de payer, puisqu'il n'a pas de bourse, pour essayer de se payer ses études. Il est en études de lettres, mais il va aussi faire des allers-retours souvent dans des plantations de sucre, par exemple. Il va travailler à un autre moment, je crois, assister son père qui doit être directeur d'une mine, d'où d'ailleurs il tirera plus tard dans un roman qu'il écrit qui s'appelle Tungstène toutes les détails sur la condition et les conditions très dures et cruelles qui sont faites aux Indiens péruviens à cette époque. Donc il passe, disons, des années 1910 à 1915. Ce sont des allers-retours perpétuels entre des petits boulots, parfois de précepteurs dans des centres scolaires pour les garçons. Et il commence déjà à écrire. Il a très très jeune, quand il commence ses études, il se consacre à l'étude du romantisme dans la poésie catalane. Il écrit même une thèse là-dessus. Quand il arrive après un cycle long de presque 5 années d'études, il renonce à un poste qu'on lui propose de précepteur. Et il retourne de nouveau près de chez lui, parce qu'un événement terrible arrive, c'est la mort de son frère Miguel. C'est un très grand choc pour lui. De toute façon, la vie de Vallejo est parcourue de grands chocs du cœur, quoi. Il va perdre beaucoup de gens autour de lui. Et il commence à cette époque, à Trujillo, quelques fréquentations littéraires. Et c'est sa thèse sur le romantisme qui va faire que les intellectuels et les artistes péruviens s'intéressent à lui. Voilà, ça commence un petit peu comme ça. Il va être une sorte de dandy un peu. On n'y est pas encore, mais quand il va arriver à Lima, il va être... c'est un personnage très à plusieurs facettes. À la fois, ceux qui ont reçu le mail d'annonce de cette émission ont peut-être vu cette photo de Vallejo qui est d'un teint très, très noir, avec un nez de boxeur, un visage très osseux, les cheveux plaqués par la gomina, quelque chose à la fois, on dit tout à l'heure, on passait la chanson de Bob Dylan, Everybody Must Get Stone, lui c'est une pierre, pas au sens, il n'est pas stone au sens défoncé, il est stone au sens de pierre. D'ailleurs, il va s'adonner aussi à la bohème plus tard, mais enfin, pour l'instant, il est cet homme qui est une véritable éponge à la fois de la souffrance et de la fraternité des pauvres.
À mon frère Miguel. Petit frère, aujourd'hui je suis sur le banc de pierre de la maison où tu nous manques profondément. Je me souviens, à cette heure nous jouions, maman nous caressait. Allons les enfants. Maintenant je me cache, comme avant, toutes ces prières vespérales, en espérant que tu ne me trouveras pas, dans la salle, le vestibule, les couloirs. Puis c'est toi qui te caches. Et c'est moi qui ne te trouve pas. Je me souviens, petit frère, ce jeu nous faisait pleurer. Miguel, tu t'es caché une nuit d'août à l'aube, mais au lieu de te cacher en riant comme tu étais triste. Et ton cœur jumeau de ces après-midi défuntes s'est lassé de ne plus te retrouver. Et l'ombre est déjà tout entière sur l'âme. Écoute, petit frère, dépêche-toi de sortir. Alors, maman pourrait s'inquiéter.
Vino hacia él un hombre y le dijo:
no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ahí siguió muriendo.
Se le acercaron dos y repitiéronle:
no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver ahí siguió muriendo.
Acudieron a él 20, 100, 1,000, 500,000 clamando:
tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver ahí siguió muriendo.
Le rodearon millones de individuos con un ruego común:
quédate, hermano. Pero el cadáver ahí siguió muriendo.
Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente. Abrazó al primer hombre, echóse a andar.
D'une glande endocrinique. Ça se voit. Ou peut-être souffres-tu de moi, de ma sagacité dépouillée, tacite. Là-bas, près où gît la ténébreuse ténèbre, tu retournes le soleil, te cramponnant à ton âme, étendant tes Jean-Baptiste corporels, et ajustant ton col. Ça se voit. Tu sais ce qui te blesse, ce qui te saute à la hanche, ce qui par toi glisse avec une corde jusqu'au sol. Toi, pauvre homme, tu vis, ne le nie pas. Si tu meurs, ne le nie pas. Si tu meurs de ton âge, hélas, et de ton époque, Et même si tu pleures, tu bois. Et même si tu saignes, tu alimentes ta canine hybride, ta bougie triste et tes parties. Tu souffres, tu supportes et tu souffres à nouveau, horriblement. Misérable singe, petit jeune de Darwin, aquasile qui me guette, microbe très affreux, et tu le sais si bien que tu l'ignores, éclatant en sanglots. Toi donc, tu es né. Cela aussi se voit de loin, malheureux, et tais-toi. Et tu supportes la rue qui t'a donné le destin, et tu interroges ton nombril. Où ? Comment ? Mon ami, tu es complètement par-dessus la tête. En cette année 38, Nicolas ou Jacques, tel ou tel autre, que tu sois avec toi ou avec ton avorton ou avec moi, est captif de ton énorme liberté, traîné par ton Hercule autonome. Mais si tu comptes sur tes doigts jusqu'à deux, c'est pire. Ne le nie pas, mon frère. Non ? Pourquoi oui, mais pourquoi non ? Pauvre singe. Donne-moi la patte. Non. La main, j'ai dit. Salut.
Nómina de huesos.
Inventaire d'os.
Se pedía a grandes voces.
On réclamait à grands cris qu'il montre ses deux mains ensemble.
Y esto no fue posible.
Comprenne la mesure de ses pas tandis qu'il pleure.
Y esto no fue posible.
Qu'il pense une même pensée, le temps de l'inutilité d'un zéro.
Y esto no fue posible.
Qu'il fasse une folie.
Y esto no fue posible.
Qu'entre lui et un autre homme semblable à lui s'interpose une multitude d'hommes comme lui.
Y esto no fue posible.
Qu'on le compare à lui-même.
Y esto no fue posible.
Qu'on l'appelle enfin par son nom.
Y esto no fue posible.
Qu'il aille nu, accru le millionnaire. Malheur à qui édifie son lit de mort sur des trésors. Un monde à celui qui salue. Un fauteuil à celui qui sème dans le ciel. Pleure à celui qui met un terme à ce qu'il fait, réservant les commencements. Que marche celui qui porte des éperons, que dure la muraille ou ne croit une autre muraille. Qu'on donne toute sa misère aux miséreux et du pain à celui qui rit. Qu'on fasse échouer les triomphes et mourir les médecins, qu'il y ait du lait dans le sang, qu'on ajoute une bougie au soleil, 800 à 20. Que l'éternité passe sous les ponts.
Voilà, c'est la voix de César Vallejo que nous écoutons ce soir. César Vallejo, ce grand poète péruvien dont on suit la marche, il est encore dans son pays d'origine. On est dans les années 1915-1916.
Alors là, en 1916, il va commencer à tomber amoureux des femmes.
Oui, mais peut-être qu'il l'était avant, mais on ne le sait
pas.
Mais
on ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais là, on va le savoir.
Voilà. Et peut-être parce qu'il arrive aussi à Lima, dans l'effervescence des milieux littéraires et qui commence à vivre une vie un peu de bohème, hein, où il essaye un peu tout, l'opium, l'alcool. Il est déjà réputé, enfin il commence, il écrit beaucoup, il fréquente des journalistes, des écrivains, des politiciens, il publie des poèmes et des articles dans des journaux de Lima. Et on le considère, parce qu'il faut penser qu'on est, voilà, 1917-1918, on est dans les tout débuts de Dada, et ça arrive, il y a des échos de Dada jusqu'en Amérique latine, quoi. Peut-être avec retard, mais enfin dans ces années-là, il va commencer à être, il sera considéré plus tard comme un leader du surréalisme péruvien. Il y a très peu de choses sur Vallejo, hein, en France. Il y a, heureusement, il y a les œuvres complètes. Hein, il y a deux éditions des œuvres complètes chez Flammarion. Hein, on s'est basé sur ces deux-là. L'une qui est traduite par Gérard de Cortance, mais qui est épuisée, et celle actuelle dont j'ai oublié le nom de la traductrice. Excusez-moi, voilà. Nicole Reda, œuvre mère. Bon, on a beaucoup hésité entre ces deux traductions. De toute façon, vous verrez au cours de cette émission que c'est une syntaxe tellement étrange. Vallejo commence à casser à la pioche le langage. Et même plus tard, on dit que dans ses brouillons, il se donne des listes de mots, ce qui est quand même très très en avance sur l'époque pour écrire ses poèmes. Et il les épuise. Il épuise les mots, c'est sa façon de faire. Donc, dans cette période-là, il tombe amoureux, hein, c'est ça que voulait souligner mon camarade.
Non, mais il tombe pour la troisième fois amoureux, parce que juste avant d'arriver à Lima, il a failli se suicider pour une passion avec une jeune fille de 15 ans.
Oui, exact. Et c'est souvent des jeunes filles de 15 à 17 ans. Oui, c'est, voilà, c'est des filles très jeunes. Donc, est-ce que c'est... Tu parles de Maria Rosa Sandoval?
Alors, celle
après,
de...
voilà, c'est... il rencontre à Lima Maria... Rosa Sandoval, je crois.
Oui, mais à Lima, il a une relation tourmentée avec Otilia Villanueva avant.
D'accord, j'avais voilà. Oublié Otilia. Mais oui. Voilà, mais sauf que c'est des relations qui tournent mal dans le sens où, par exemple, Maria Rosa Sandoval meurt très très vite. Elle meurt à peine 2 ans après qu'ils se soient connus. Et en plus, dans cette même année... Sa mère meurt aussi. Et je crois qu'il ne peut pas assister à la mort de sa mère parce que, bon, on le prévient trop tard et que c'est loin. À l'époque, on circule à cheval et avec très peu de, avec des moyens pauvres et lents. Et que ça commence pour lui une période de grande dépression. Il a 24 ans à l'époque. Il est accueilli par un ami, Léon Goodman. Et il va écrire. Il va commencer à exhumer sa peine et aussi sa confiance, d'une certaine manière, cette espèce de joie tragique qu'il a dans ses poèmes, à travers les premiers textes des Heraldos Negros, les héros noirs, c'est le titre de son premier recueil, et il est appelé par l'Europe, il veut absolument partir en Europe. C'est les années 20, donc il a des échos de plus en plus forts de ce qui se passe là-bas. Et il veut revoir quand même sa famille avant de partir en Europe. Et lorsqu'il arrive dans son village, il y a une émeute très violente, un incendie. Il est accusé et il est emprisonné à la suite de ces événements. On le soupçonne à tort, certainement. Et il passe 112 jours, il dit le compte exact, 112 jours en prison pendant lesquels il va ne faire qu'écrire, écrire, écrire. Et sortir le début de ce qui va être une des œuvres les plus connues de lui, qui s'appelle Trilce. Trils, T-R-I-L-C-E. Et pendant, donc à la sortie de prison, il va se présenter à un concours qui est organisé à Trujillo, donc la ville universitaire où il a suivi des cours, un grand concours municipal de poésie, parce que juste à ce moment-là, c'est le centenaire de l'indépendance du Pérou, et il y a un concours de poésie qui est organisé, et il remporte le premier prix avec une somme assez coquette. Je crois que c'est avec cet argent qu'il va pouvoir partir en Europe.
Un hombre pasa con un pan al hombro.
Un homme passe un pain sur l'épaule.
Un hombre pasa con un pan al hombro.
Un homme passe un pain sur l'épaule. Vais-je écrire après sur mon double?
Otro se sienta, rascase, extrae un piojo de su axila, mátalo.
Un autre s'assied, se gratte, extrait un pouls de son aisselle, le tue. Avec quel courage parler de la psychanalyse?
Otro ha entrado a mi pecho con un palo en la mano.
Un autre est entré dans ma poitrine, un bâton à la main. Et vous voulez que je parle de Socrate au médecin?
Un cojo pasa dando el brazo a un niño.
Un boiteux passe donnant le bras à un enfant. Vais-je après ça lire André Breton?
Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre.
Un autre tremble de froid, tousse, crache le sang. Sera-t-il jamais possible d'évoquer le moi profond
Otro busca en el fango huesos, cáscaras.
Un autre cherche des os dans la boue, des épluchures. Comment disserter ensuite sur l'infini?
Un albañil cae de su techo, muere y ya no almuerza.
Un maçon tombe d'un toit, meurt et ne déjeune plus. Renouveler alors le trope, la métaphore?
Un comerciante roba un gramo en el peso a un cliente.
Un client vole un gramme à un commerçant. Parler ensuite de la quatrième dimension?
Un banquero falsea su balance.
Un banquier falsifie son bilan. Quel visage prendre pour pleurer au théâtre?
Un paria duerme con el pie a la espalda.
Un paria dort, un pied dans le dos. Parler après à quelqu'un de Picasso.
Alguien va a un entierro sollozando.
Quelqu'un suit un enterrement en sanglotant. Comment, dès lors, entrer à l'académie?
Alguien limpia un fusil en su cocina.
Quelqu'un nettoie un fusil dans sa cuisine.
Alguien...
Avec quel courage parler de l'au-delà?
Alguien pasa contando con sus dedos.
Quelqu'un passe en comptant sur ses doigts. Comment parler du non-moi sans pousser un cri?
Sin dar un grito? Trilce.
La sphère terrestre de l'amour qui s'est attardée en bas tourne et tourne sans s'arrêter une seconde. Axe que nous sommes, nous voilà condamnés à subir son giratoire.
La esfera terrestre de l'amour que rezagose abajo da vuelta y vuelta sin parar segundo. Y nosotros estamos condenados a sufrir como un centro su gira.
Pacifique immobile, vert, enceinte de tous les possibles. Ande froide, inhumable, pure, peut-être, peut-être.
Pacifico immobile, vidrio, preñado de todos los posibles. Andes frío, inhumanable, puro, acaso, acaso.
Tourne sa sphère sur le silex du temps et ses fils jusqu'à sa perte. Tourne forgeant face au flanc déserté ce point si ombrageusement connu parce qu'il a conçu, tourne et tourne le petit cirque classique.
Gira la esfera en el pedernal del tiempo y se afila hasta querer perderse. Gira forjando ante los desertados flancos aquel punto tan espantablemente conocido, porque él ha gestado vuelta y vuelta el corralito concebido.
Centrifuga,
que sí,
mais oui,
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 que
mais
sí,
oui,
que
mais
sí,
oui,
non.
Non. Et je me retire jusqu'à bleuir, et me retirant, m'aguerris. Jusqu'en presser l'âme.
Y me retiro hasta azular, y retrayéndome endurezco hasta apretarme l'alma.
Thank you.
Cette nuit, tu t'es crucifié sur les deux madriers courbés de mon baiser. Et ta peine m'a dit que Jésus a pleuré et qu'il est un vendredi saint plus doux que ce baiser. En cette nuit singulière où tant tu m'as regardé, la mort a été joyeuse et a sifflé dans son os. En cette nuit de septembre, on a célébré ma seconde chute et le plus humain des baisers. Aimés, nous mourrons tous deux ensemble, très unis. De loin en loin se desséchera notre suprême amertume et nos lèvres défuntes auront sonné un glas d'ombre. Et il n'y aura plus de reproches dans tes yeux bénis et je ne t'offenserai plus. Et dans une même sépulture, nous dormirons tous deux comme frères et sœurs.
Esta noche tú te has crucificado entre los dos maderos curvados de mi beso y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. Amada, en esta noche tú te has crucificado. Junto, muy junto, y ya no habrá reproches en tus ojos benditos, ni volveré a ofenderte y en una sepultura dormiremos los dos como dos hermanitos, ni volveré a ofenderte y en una sepultura los dos como dos hermanitos. Amada, moriremos los dos juntos, muy juntos. Crucificado entre los dos maderos curvados de mi beso y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. Amada, en esta noche tú te has crucificado.
Paco Ibáñez chantait César Vallejo, poème à son aimé. Auparavant, il faut dire que c'était Daniel Viglietti qui a chanté Massa, Massa. Et donc on suit César Vallejo qui a décidé depuis déjà quelques années, qui est mangé par le désir de gagner l'Europe, qui l'attire beaucoup à la fois pour les idées politiques et la poésie. Et il va partir, donc après avoir gagné d'ailleurs un autre concours de poésie avec son deuxième recueil Trilce, il va partir avec l'argent de ces deux concours, il va partir à Paris, où il arrive en 1923 et où il va connaître une vie
très très difficiles, des années très pauvres. Il vit quasiment en vagabond, en clochard presque. Il ne parle pas un mot de français.
Il vit sous les ponts, carrément.
Il vit sous les ponts.
Les premiers mois, il vit sous les ponts.
Voilà, il vit sous les ponts, il vit d'expédients. Il est un petit peu aidé par quelques latinos qu'il rencontre là-bas, mais enfin, il vit comme c'est un homme qui n'est pas très communicatif immédiatement, c'est quelqu'un d'assez réservé. On peut imaginer bon, qu'il a beaucoup de mal à faire état de cette pauvreté. Et puis arrive un événement terrible, alors qu'il est à peine depuis un an et demi en France, qu'on lui annonce que son père va mourir, et il rentre très vite. Il rentre à Santiago de Chuco pour assister à la mort de son père. Puis il reste encore une année, il revient à Paris. Mais toute la vie de Vallejo, toute sa vie, c'est des voyages, c'est une sorte d'errance à l'intérieur, mais aussi d'errance sur la planète, puisqu'il va faire beaucoup d'allers-retours. Il y a deux allers-retours avec l'Amérique latine, mais après il va y avoir aussi beaucoup de voyages en Europe même.
Et dès ce moment-là, il commence à devenir... Il est malade quand même, hein. Il a des problèmes intestinaux. Il se fait hospitaliser une première fois à Paris en 1924.
Oui, il a des hémorragies intestinales graves, hein, qui le poursuivent toute sa vie. On peut imaginer qu'avec le régime alimentaire qu'il a, ça a rien d'étonnant, quoi. Mais c'est quelqu'un qui ne compte pas. Enfin, le corps est douloureux, mais comme il dit, comme dit le texte qu'on a lu au début, l'âme, c'est l'âme qui souffrit d'être un corps. Donc il voyage avec ce mal, il voyage, puisque de toute façon, c'est une goutte d'eau dans l'océan de la souffrance humaine. Il est assez peu regardant sur la question. Et donc, il va revenir en 25 à Paris. Et là, ça s'améliore un petit peu, grâce entre autres à Juan Larrea, qui est un écrivain et ami à lui qui va l'aider à avancer. Bon, et puis, donc, il va collaborer à des tas de revues. Il a un appartement à l'hôtel Richelieu, rue Molière, donc c'est quand même, bon, ça montre quand même une certaine installation près du Palais Royal. Et là, donc, il est amoureux à nouveau de Henriette Metz, une jeune femme qu'il rencontre à ce moment-là. Il est dans grande activité, il est très, très intéressé par le marxisme, mais en même temps, il y a ce côté sentimental.
Il a déjà fait deux allers-retours à Madrid, hein, en 1900. Il a commencé à connaître l'Espagne.
Exact, il fait des allers-retours et il rencontre notamment, je crois, Rafael Alberti et Salinas. Et plus tard, d'ailleurs, il va lier amitié aussi avec Federico Garcia Lorca. Oui. Bon, il est très apprécié, mais il reste dans une situation très précaire. Et puis, arrive en 27, il y a une autre rencontre qui arrive alors qu'il est dans cette relation avec Henriette Metz. Il a une sorte de coup de foudre pour une jeune femme qui habite juste en face de chez lui, qui s'appelle Georgette. Je crois que c'est Georgette Travers, selon le nom de sa mère, qui est une jeune femme cultivée, fille d'un... Son père est mort à la guerre de 14. Et elle travaille avec sa mère dans un atelier de couture de luxe. Sa mère travaille pour Lanvin, elle sous-traite pour Lanvin et pour une famille une entreprise qui s'appelle la Maison Royale, qui fait les robes pour les princesses, enfin les grandes de ce monde. Mais quand même, elle a étudié la musique, elle joue du violoncelle, elle joue de la guitare, et surtout, elle a étudié l'espagnol. Et tout d'un coup, elle se rend compte de l'importance de cet homme. Elle dit de cette rencontre, « Vallejo me salua en ôtant son sombrero, et je vis une grande luminosité blanche et bleue autour de son visage. » On ne peut pas dire mieux pour un coup de foudre. Bon. Et donc, Georgette, alors lui, va tout de suite demander à Georgette de vivre avec elle. Mais alors, là arrive une histoire. Bon, la mère de Georgette ne veut absolument pas de cette liaison. Mais la mère meurt dans les mois qui suivent. Et la mère est très riche. Donc, donc voici qu'arrive un héritage. Mais on dit que cette année est une année de grande dépression. Et une année très très instable émotionnellement, puisqu'il est un petit peu entre deux femmes. Bon, on rentrera pas dans les détails, mais Henriette Metz va plus ou moins négocier presque. Enfin, je sais que Georgette Vallejo donnera une somme très importante à Henriette Metz pour qu'elle disparaisse, qu'il y a une espèce de tractation assez terrible qui certainement a dû aussi beaucoup l'affecter.
Et est-ce que c'est la raison pour laquelle il fait son premier voyage en Russie?
Alors, il part avec Georgette en Russie. Il emmène Georgette. Je pense qu'il part en Russie parce qu'il est très très attiré par le marxisme et il veut étudier le marxisme en Russie. Voilà. Il faut se rappeler qu'on est dans les années 30, que tous les poètes, y compris les surréalistes, sont complètement fascinés par le communisme. On sait, bon, on a déjà parlé dans d'autres émissions de cette espèce de hache qu'a été dans la littérature l'appartenance, l'obédience ou pas au Parti communiste.
Retour de Russie, il fonde avec José Carlos Mariátegui le Parti socialiste du Pérou. La cellule parisienne, en tout cas, Parti socialiste du Pérou.
Donc, il s'est engagé. On va peut-être s'arrêter là pour la biographie, pour nous laisser le temps de continuer à dire les textes qu'on voudrait vous faire partager de César Vallejo.
Au moment où le joueur de tennis lance magistralement sa balle, le domine une innocence totalement animale. Au moment où le philosophe découvre une nouvelle vérité, c'est une bête intégrale. Anatole France affirmait que le sentiment religieux est la fonction d'un organe spécial du corps humain, jusqu'alors ignoré, et l'on pourrait dire aussi, alors, qu'au moment précis où un tel organe fonctionne pleinement, le croyant est si dénué de malice qu'on le prendrait presque pour une plante. Ô âme, ô pensée, ô Marx, ô Feuerbach.
Et malheureusement, la douleur s'accroît dans le monde à chaque instant, à 30 minutes par seconde, pas à pas, et la nature de la douleur, c'est la douleur deux fois. Et la condition du martyr, vorace, carnivore, c'est la douleur deux fois. Et la fonction de l'herbe la plus pure, douleur deux fois. Et le bien-être doublement nous blesse. Jamais, hommes humains, il n'y eut dans la poitrine, au revers de la veste, dans le portefeuille tant de douleurs, dans le verre, dans la boucherie, dans l'arithmétique, jamais tant de tendresse douloureuse, jamais si proche du si lointain l'assaut. Jamais le feu, jamais ne tint mieux son rôle de froid mort, jamais, monsieur le ministre de la santé ne fut plus mortelle, et la migraine n'extirpa pas d'un front tant de fronts. Et le meuble trouva dans son tiroir de la douleur, et le lézard dans son tiroir de la douleur. Le malheur s'accroît, frère, homme, plus prompt que la machine, 10 machines à la fois, et il s'accroît avec la bête de Rousseau, avec nos barbes. Le mal s'accroît pour des raisons qui nous échappent, et c'est une inondation avec ses liquides, sa boue à soi et son nuage bien ferme. La souffrance inverse les positions, un spectacle commence où l'humeur aqueuse est à la verticale du pavé, où l'œil est vu et l'oreille entendue, et cette oreille sonne 9 coups de hache à l'heure de la foudre, et 9 éclats de rire à l'heure du blé, et 9 sons femelles à l'heure des pleurs, et 9 cantiques à l'heure de la faim, et 9 coups de tonnerre, et 9 coups de fouet sans un cri. La douleur nous empoigne, frères hommes, de dos, de profil, et nous rend fous dans les cinémas, nous crucifie sur les gramophones, nous décrucifie dans nos lits, tombe perpendiculairement à nos billets d'entrée, à nos lettres. Et il est très grave de souffrir. Et l'on pourrait prier. Car il en est certains qui naissent du travail de la douleur. D'autres grandissent, d'autres meurent, d'autres naissent et ne meurent pas, d'autres encore meurent sans être nés, d'autres enfin, les plus nombreux, ne naissent ni ne meurent. Et c'est aussi par le travail de la douleur que je suis triste jusqu'à la tête et plus encore jusqu'à la cheville, de voir le pain en croix, le navet en sang, l'oignon en larmes, les céréales en général en farine, le sel en poudre, l'eau en fuite, le vin en etchéomo, si pâle
la neige, si ardent le soleil. Comment, frères humains, ne pas vous dire que je n'en peux plus, que je n'en peux plus de tous ces tiroirs, de toutes ces minutes, de tous ces lézards, de toutes ces inversions, de tout ce lointain et de toute cette soif de soif. Monsieur le ministre de la Santé, que faire? Ah, malheureusement, hommes humains, il y a, frères, tant à faire.
Faire confiance aux lunettes? Non à l'œil. À l'escalier? Jamais à la marche. À l'aile? Non à l'oiseau. Et à toi seul, à toi seul, à toi seul. Faire confiance à la méchanceté? Non aux méchants. Au verre? Mais jamais à la liqueur. Au cadavre? Non à l'homme. Et à toi seul, à toi seul, à toi seul. Faire confiance aux plusieurs, mais plus à l'un. Au lit du fleuve, jamais au courant. Aux culottes, non aux jambes. Et à toi seul, à toi seul, à toi seul. Faire confiance à la fenêtre, non à la porte, à la mer, mais non aux 9 mois. Au destin, non au dédor. Et à toi seul, à toi seul, à toi seul.
Voilà, cette émission, donc cette première émission était consacrée à une partie de la vie de César Vallejo. Je remercie mes camarades, en particulier Charo Beltran qui nous a aidé à faire un énorme travail sur la biographie, parce qu'il existe, il n'existe aucune biographie en français de César Vallejo, hein, et d'avoir amené sa belle langue dans l'origine. Jean-Claude César, Patrick Vendrin, Yves Flanc qui était avec moi. Aussi, je voudrais citer les musiques qu'on a utilisées. Hein. Il y a, je l'ai dit déjà, Daniel Viglietti, Bob Dylan, Hadouk Trio, Dino Saluzzi, Egberto Gismonti, Arvo Part et Paco Ibáñez et Keith Jarrett. Un bref instant. Voilà. Pour ceux qui cherchent les textes de César Vallejo, il n'y a malheureusement que l'édition actuelle de Flammarion. Vous pouvez nous appeler, nous envoyer des mails par le biais de la radio. Vous pouvez aussi également écouter ces émissions en archive sur le site michelarbatz.com, www.michelarbatz.com. Bonne quinzaine à tous et à bientôt.